Vous êtes sur la bonne fréquence, sur le bon poste. Colosse au micro, toujours prêt pour la riposte. Divise l'opinion à la butée Pascal. Te fais voir des étoiles comme un voyage astral. Sonné comme saut de Popinski sur le mescal. Le tour de la planète box sans escale. Le plus grand de tous les temps, la Mohamed Ali. Encore plus résilient qu'était Arturo Gatti. Laurence écoute parler, et qu'importe ce que t'en dis. Tu vas finir au tapis, champion de catégorie. Laurence écoute parler, et qu'importe ce que t'en dis. Gauche, droite, gauche.
En direct du meilleur podcast au Canada, c'est ton podcast préféré. Laurence écoute parler en direct de ma cuisine de Rosemont, Montréal. Et là, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, je pense depuis à peu près hier, des gens qui m'écrivent, mais Poulain, pourquoi tu le fais pas ton... Pourquoi tu t'ajoutes pas un autre iPad, tu sais? Parce que la grosse argent avec Punching Grace, Eye of the Tiger pour écrire... les gros commanditaires comme David Saint-Martin et Farley Arroca, ce serait une pinotte pour toi de t'acheter un nouveau iPad. Ouais, pas fou, mais j'espère quand même... Désolé, je suis en train de faire de la technique. Les gens pensent qu'un podcast comme le mien, c'est quelque chose qui est facile à organiser. Il y a des fils à brancher. Il y a des murs à capitonner. Donc, en direct de ton podcast préféré, dans un... 2,5 de Rosemont, Montréal. Grosse semaine, j'étais en vacances et qu'est-ce que j'ai fait? Hier, je suis allé à Fight Night à Shawinigan. Il y avait un gala de boxe. Benjamin, il me connaît, là. J'y ai dit. En début de soirée, il y avait quelques combats plus inégaux, peut-être. Mais il y avait de tout. Après l'entraque, gros, les trois derniers combats ont livré la marchandise. Je parle de mon bon ami Claude Junior Loisel qui est allé à la guerre contre un boxeur qui s'appelait Florian Rimbaud. Très beau combat. Il y a eu le jeune Charles Amel Théberge, le neveu, dans une démo. Et l'autre petit gars, il était bon aussi. Il me semble que j'avais noté son nom quelque part. Ben non, finalement, j'ai pas noté son nom. Je viens de voir ma feuille mobile. Mais il y a eu des combats, ce qu'ils appellent des démos, où pour les enfants. Là. Et c'est bien fait, là. C'est quand même sécuritaire. Là. Les enfants, ils peuvent seulement se frapper au corps, tu sais, puis ils vont tout doucement. Là. À la limite, ils font quasiment attention à l'adversaire. Là. J'ai trouvé ça magnifique. Donc, j'assistais à ça. Je suis monté là-bas avec ma bonne amie Michel Boisvert, puis on a ri. Tu sais, on a ri sur un moyen temps, pour dire la vérité. Aujourd'hui, c'est dimanche, ouais, je suis allé souper avec la plus belle fille au Canada aussi vendredi. Puis ça m'a fait rire parce que elle est tout petite, OK? Puis elle a englouti un pizza Getty. Là. Je veux dire, j'ai commencé une anecdote dans mon enfance qui durait, tu sais, vous connaissez mes bonnes anecdotes. Mon anecdote devait durer à peu près 18 minutes. Je me suis relevé, je la regardais dans les yeux pour jaser. Je me suis penché à la tête. Il n'y avait plus de spaghettis, il n'y avait plus de pizza, il n'y avait plus de pain à l'ail. Elle a englouti un pizza Getty. C'était spectaculaire. Donc, beaucoup de gens me demandent, j'ai reçu des courriers des lecteurs et j'ai Michel Boisvert qui me demande, Laurent, c'est quoi la différence entre Pâques et la Pâques? Là, j'ai fait comme, wow, OK, c'est bon. Pour vrai, je le sais pas, mais j'ai l'internet, OK? La Pâque, comme on va dire, parce qu'il faut que je retourne à mes choses, là. La Pâque, c'est pour célébrer quand les Juifs ont quitté Israël où ils étaient réduits en esclavage. Ça, c'est la fête de la Pâque. On célèbre la fin de l'esclavagisme en Égypte. Et Pâques, avec un S, c'est plutôt pour célébrer... je me suis trompé. C'est les Hébreux qui étaient esclaves en Égypte et Moïse, d'aller les chercher, les a sortis d'Égypte. C'est ça, Pâques, pas de S. Alors que Pâques, avec un S, c'est la résurrection de Jésus, comme on la connaît un peu symbolique ou... Jésus se réveille après 3 jours de mort. Okay? C'est ça la différence. Là, vous allez me dire pourquoi le chocolat? Je sais pas pourquoi le chocolat. C'est commercial, hein? C'est probablement que quelqu'un a inventé ça, un peu comme Coke a voulu s'approprier Noël. T'sais. C'est bien complexe l'histoire puis les affaires. Mais si je retourne à mes un peu à mes cours d'histoire. Ça mène à rien, ma chronique, aujourd'hui. Je suis comme pas préparé. J'essaie de fouiller dans mes souvenirs. C'est inquiétez-vous pas, là, je vais être super bon pour parler de boxe après, mais là, je sais pas ce qui se passe. J'ai voulu trop en faire, là. De tomber dans mes classiques religieux. Donc, fin de la fête de Pâques. Amusez-vous, mangez du chocolat, profitez du lundi de congé. On passe aux choses sérieuses. Le podcast est commandité par FightNight.co. Vous avez manqué ça hier, c'était spectaculaire. 12 combats de boxe. Comme je vous ai dit, c'était le fun de voir les enfants commencer. C'était le fun de voir les gens faire leur premier combat. Tu sais, il y a un jeune, il s'appelait, je me rappelle son nom, Félix Gay. Il vient s'asseoir à côté de moi pour la grande entrevue. Puis, je pense qu'il venait de perdre son combat. Il a le plus beau sourire que j'ai jamais vu. Genre, il est comme, hey, je suis de bonne humeur. Il me fait un câlin. Il dit, je suis content de te voir, Laurent, c'est quoi de parler? Là, je dis, OK, tu viens de perdre, mon jeune. Il dit, tu penses que j'ai perdu? Il dit, grâce à ce combat-là, il dit, je suis retourné au gymnase. Il dit, j'ai perdu 40 livres. Je veux en perdre d'autres encore. J'ai jamais été en aussi bonne santé. Mes prises de sang sont meilleures que mon médecin de famille. Il dit, tu sais, lui, là, c'était genre le V de victoire en gros, OK? Malgré qu'il venait de perdre un combat par décision, là, c'est Philippe Farley qui me disait que souvent l'important, c'est le chemin parcouru et non pas la fin, OK? Mais c'est exactement, ce gars-là m'a rappelé l'expression à Philippe Farley. Donc là, j'étais bien heureux de voir ça. Puis c'est pour ça que je vous conseille de vous abonner à FightNight.co. Vous pouvez réécouter le spectacle, vous pouvez commencer. C'est le temps, là, c'est un cycle qui commence. Tu t'affilies à un gym, tu commences à t'entraîner, puis tu es sur le prochain Fight Night avec de la pyrotechnie. C'était pour vrai, j'ai trouvé que la pyrotechnie puis les vidéos, c'était mieux qu'à Riyad en Arabie Saoudite. Donc, tu t'inscris, fightnight.co, c'est le temps. Là, présentement, on a besoin de combattants pour le prochain gala. Tu t'en vas dans inscription, tu rentres toutes les infos et Benjamin te trouve un combat équilibré. Je voudrais aussi saluer Benjamin, Amel Théberge, le génie derrière FightNight.co. Allez vous inscrire et je voudrais en profiter pour donner de l'amour à mon bon ami Siama Kramati qui s'entraînait pour faire la finale de FightNight.co et à 14 jours, bactéries mangeuse de chair. Il est à l'hôpital à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il va possiblement éviter l'amputation d'un membre, mais je peux vous dire qu'il a fait de la fièvre sur un moyen temps. Il a eu un mal de tête terrible, des nausées. Il était faible. Il venait travailler quand même parce que c'est un animal, mais là, il est hospitalisé. Puis on a failli le perdre. Puis moi, j'ai pas le goût de le perdre parce que c'est mon meilleur ami le plus désagréable que j'ai. Tu sais, j'ai plusieurs bons amis, mais lui, désagréable, je trouve que ça fait un équilibre avec les amis que j'ai qui sont agréables. Fait que Sia, j'ai pas envie de te perdre, reviens plus fort que jamais. Le bon Dieu, on est dans la fête chrétienne, là, le bon Dieu envoie les épreuves à ceux qui peuvent les relever.
Maintenant, c'est la chronique boxe québécoise.
En direct, excusez, il y a eu un petit délai, là, j'étais en train de, ce qu'on appelle dans le jargon, j'étais en train de fondre l'introduction à mes paroles, puis je l'ai complètement raté, fait qu'il va y avoir un méga délai. Cette semaine, je suis tombé en bas de ma paire de Air Max 2017,
que hier, ça m'a fait rire. Hier, je sais pas pourquoi, il y a un jeune dans le gala qui me disait « Hey, t'as des Air Max 2017, ça vaut 400$. » Je dis pas en tout, je les ai achetés en liquidation au Nike à 120$, mais je dis « Tu me donnes le goût d'aller acheter les autres couleurs maintenant que tu m'as dit le prix que ça valait. » Fait que les jeunes, hein, ils collectionnent les souliers. À l'époque, comme je collectionnais les REER en bas âge, on a appris cette semaine, je suis tombé en bas. Mais là, je fais la même introduction en bas de mes souliers. Reviens-en, là, poulain. Quand j'ai appris que Steve Claguette allait affronter Teofimo Lopez, disons que j'étais pas tombé en bas de mes souliers deux jours avant, quand j'ai appris qu'il allait affronter Mike Owen. Mais ce que j'ai fait, et le truc dans la vie, là, c'est d'ouvrir ses grandes oreilles pour aller chercher des indices. Donc, j'ai téléphoné Camille et Stéphane. Moi, j'ai le droit de l'appeler. Fait que là, j'appelle Camille. On parle, jase. Là, je dis à Camille, « Hey, Camille, ça va? » Il me dit, « Bon, oui, ça va. » Là, je me mal voyais parce que quand même, mon patron. T'sais. Fait que là, je dis, « Vous allez bien, monsieur Stéphane? » Il me dit, « Oui. » Fait que là, je lui dis, c'est un peu décevant, Mike Owen, pour affronter Steve Claguette. Il me dit, oh Laurent, on a passé, il y a eu trois grosses offres de combat. Tu comprends que c'était probablement des championnats du monde. Là, il veut pas trop parler, mais il me dit, ça s'en vient. Ben, moi, je pensais pas que ça s'en venait dans les heures qui suivaient. Tu sais. Ça, c'est un peu trop rapide. Donc, Steve Claguette va affronter Teofimo Lopez. Pour vous donner une idée, Teofimo Lopez, à 140 livres, si je vais d'un classement dans ma tête, là, pour vous autres, 1, c'est Devin Haney. 2, ce serait Teofimo Lopez. 3, Soubriel Mathias. 4, Isaac Cruz, qu'on reparlera tantôt. 5, j'aurais Ryan Garcia. 6, j'aurais encore Régis Progrès, même si je suis pas trop sûr qu'est-ce qu'il fait de ce temps-ci. 7, j'aurais Jamon Ortiz. 8, Josh Taylor. 9, Richardson Hitchin. Et de mémoire, j'aurais Arnold Barboza, 10. Mais vous voyez, c'est le deuxième meilleur boxeur de la division. Teofimo Lopez, il va passer pro à 18 ans. Alors que c'est littéralement ce qu'on appelle un prodige chez les amateurs. Il a 18 ans, là. Il va affronter plein de monde, mais là, c'est, je dirais, à 20 ans, quand il affronte William Silva, qu'on va vraiment faire comme « Wow, il est sérieux ». Après, on va y envoyer Mason Maynard, qui est un vrai tough. Il va le passer. On va y envoyer Diego Magdaleno, qui était un méga prospect à une autre époque. Il va l'arrêter par KO. Là, tout le monde est comme, OK, on est ailleurs. Là. Ce gars-là, il est fou, braque. Il passe Ryan Comey par KO. Richard Comey. Et là, ça n'a aucun sens. Là. Et ce gars-là a la boxe à ses pieds. Il s'en va pour être numéro 1, pound for pound. En voulez-vous une bonne? Il passe Vasil Lomachenko, mais il fait passer Vasil Lomachenko pour un quasi-débutant. Genre. Il a réponse à tout. Il fait ça. Là, vous allez tomber à terre. Ça a l'air facile contre Lomachenko. Voyons. Le gars, il y a même un juge, mais ça, c'est Lederman à le 119-109 pour Lopez. Lomachenko gagne un round contre Lopez. Steve Weiss-Phillip a probablement le meilleur score à 117-111. Ce gars-là, il a amené Lomachenko à la petite école. Est-ce que c'est la gang de l'après-Lomachenko? Il va perdre une split décision contre George Kambosos. Une performance horrible. Il revient, bat Pedro Campa, bat Sandor Martin, bat Josh Taylor dans un combat où il était négligé. Et là, il va affronter Jamon Ortiz. Ortiz, c'est le meilleur jeu de pied quasiment en boxe professionnelle. Paraît mal parce qu'il court après, puis tout. Serrone à 5, OK? Fait que là, il demande à son clan, trouvez-moi un adversaire qui va planter les pieds puis qui va se battre, je veux bien paraître dans mon prochain combat dans un style qui est plus le mien. Donc là, ils ont besoin d'un boxeur classé qui va planter les pieds puis qui va se battre. Je vous donne en mille. Steve Claguette est le prochain adversaire de Vasyl Lomachenko. Et Claguette, c'est la plus belle histoire que je peux vous raconter avant de dormir. Mais dormez pas là, là. C'est pas sur mon podcast, mais notez les heures puis réécoutez-la pour vous endormir. C'est comme ça va être vraiment une belle petite histoire. Steve Claguette, il vient ici, si ma mémoire est bonne, en 2017 pour affronter Yves Ulysse. Il est dans le rôle du méchant. Et là, on va le conspuer après qu'il obtienne une victoire par une décision partagée des juges. Les gens, là, ils en veulent. Mon ami Manny Montréal, il fait des vidéos pour crier au vol où il découpe les meilleurs extraits d'Ulysse. Puis là, il dit « Est-ce possible, cette défaite? Est-ce possible? C'est un scandale! » Puis là, il envoie ça à travers le monde. Puis, il se chicane littéralement. Je me rappelle là, qu'il invite des gens quasiment à bagarre. Là. Il dit « Si tu dis quelque chose, je vais être dans ta face sur ton balcon. » Je me rappelle qu'il est vraiment choqué. Là. Il invite des gens à la bagarre là, parce que il n'en vient pas du vol qu'il y a eu. Et c'est pas mal unanime qu'il y a eu un vol cette journée-là. Donc, le pauvre Claguette, lui, il s'assoit en entrevue avec Vincent Tremblay, puis il dit, ben, je suis seulement un boxeur qui voulait gagner, tu sais, puis il pleure quasiment, il a peur, tu sais, il dit, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas me faire attaquer dans la foule. Fait qu'il gagne la split, c'était bel et bien en 2017, moi, on se dit que j'étais intelligent. Cette journée-là, Claguette, il revenait d'une défaite contre Constantin Ponomarev, OK? Il avait pris le combat à 154 livres avec 48 heures de délai. C'est pour ça que moi puis le bon vieux Vincent Tremblay, on disait « Faites attention! » Il a pris le combat à 48 heures. « Faites attention! » Et là, par la suite, il va affronter... il y a une erreur sur mon... Il y a une... Je suis sur un site qui s'appelle Tapology. Puis, ben là, je suis à moins que ce soit moi qui soit mêlé. Ils disent que Claguette a perdu le premier combat contre Germain. Puis, je pensais que c'était un match nul. Là, je ne sais plus quoi penser. Là. C'était-tu nul, le premier combat? Oh non, là, j'ai comme un remplacement d'iPad avec un iPod. Puis, mon iPod vient d'exploser. Donc, je ne sais pas trop quoi vous dire. Bon, là, il y a eu un premier combat avec Mathieu Germain. Puis si ma mémoire est bonne, ça finit combat nul. Mais là, je suis mêlé. Je pense que je suis obligé de peser sur pause. Là, il y a eu un premier combat. Là, je pensais que ça avait fini combat nul, mais je vérifierai entre-temps. Et là, après, Mathieu Germain fait une nulle au premier combat. Il y a une erreur sur Tapology. Paul Wallace donne 96-94. Benoît Roussel donne 96-94 de l'autre côté. Et le juge Procopio nous règle ça 95-95. Ensuite, Claguette va perdre le combat revanche contre Yves Ulysse. Va perdre aussi le combat revanche contre Mathieu Germain. Fait que là, on pense que notre pauvre Claguette, il est fini. T'sais. Mais là, il va rentrer dans le gymnase de Mike Moffa. Et c'est la renaissance. Claguette est invincible avec Mike Moffa. Il va signer avec Eye of the Tiger entre-temps, qu'il veut faire une offensive dans l'Ouest américain. Ils vont signer Bri Alling et Steve Claguette. Mais Claguette, quand il vient ici là, contre Ulysse, là... non, le premier combat contre Germain, il n'y a même pas d'entraîneur. Il demande à quelqu'un, est-ce que quelqu'un peut venir m'entraîner genre sur Facebook? Parce que ça me prend quelqu'un dans le coin pour mon combat. Il arrive tout seul avec un baluchon. Hein. Et là, François Duguay va lui offrir son aide et faire le mieux qu'il peut avec, tu sais, dans le coin. Et c'est la grosse différence. Écoutez-moi bien. Il y avait un baluchon Il était tout seul quand il est venu affronter Germain. Il est entraîné par Richard Lestage. Ma mémoire est bonne, mais je suis vraiment pas... Non, c'est pas ça, je suis pas sûr. Je me souviens pas c'était qui son entraîneur. Lestage, c'était un autre boxeur. Ça, c'était Breadwood. Il vient ici, là. Quand il affronte Ponomarev, il n'y a pas de... Il n'y a pas de préparation. Il a pris le combat à la dernière minute. Quand il affronte Germain, c'est François Duguay qui est dans son coin. Tu sais, c'est jamais optimal pour le pauvre Steve Claguette. Et là, Claguette, que c'est jamais optimal, ses combats, a la chance pour la première fois d'être entouré de Mike Moffa depuis 10 combats. Là-dessus, il n'a jamais perdu. Il y a une séquence de KO à pu finir. Après ça, c'est la première fois qu'il obtient un combat de championnat du monde, un combat important, avec 12 semaines pour se préparer. Là, Steve Claguette, là, il a accès à tout. Il a accès à Arthur Bjarslanov. Mathieu Germain va aller l'aider, c'est son chum. S'il veut, il peut... Mon Dieu, je suis fatigué. Il peut demander à Yves Ulysse d'aller l'aider. Va y aller. Il peut demander à n'importe qui. Il peut demander à des 160. Il peut demander à Butler. Il peut demander à des plus petits. Il y a tout ce qu'il faut chez Eye of the Tiger pour l'aider. Et là, il y a 3 mois. Teofimo Lopez, on le sait, il peut faire des contre-performances. Il n'est pas parfait, Lopez. Est-ce qu'il est favori à 5, 6, 7, 8 contre 1? Oui. Mais moi, là, en cette fin de semaine de Pâques, où Jésus a fait le miracle de ressusciter, mais j'ai le goût de croire au miracle que Steve Claguette va battre Teofimo Lopez. Est-ce que c'est un miracle du même type que ressusciter après la mort? Oui. Ben moi, j'ai la foi et je me range derrière Steve Claguette. Ma très bonne amie Marie-Pierre Roule remonte dans le ring le 4 avril prochain contre Marisa Johanna Portillo. Je l'ai reçue en grande entrevue pour le plaisir de vos oreilles. En direct avec mon athlète préféré, Marie-Pierre Roule, tu vas te battre le 4 avril prochain contre Marisa Johanna Portillo. Elle a le 41 combat et t'a déclaré à ton promoteur. Elle restera pas debout, mais jamais tombée. Là. Qu'est-ce qui se passe? T'es rendue méchante?
C'est mon objectif. On a travaillé vraiment fort dans ce camp-là. On va voir qu'est-ce que ça va donner rendu là. Mais si j'ai l'opportunité de pouvoir la coucher, je serais bien contente. Mais je suis là pour donner vraiment un gros combat. Je veux faire un gros combat cette fois-là contre une fille d'expérience qui en a vu d'autres. Fait que je suis prête à tout donner pour ça.
Des fois, Marie, en boxe, là, on n'a même pas besoin de se battre puis notre valeur augmente. Tu sais, Sandy Ryan a arrêté Terry Harper après 4 rondes. Son coin a dit, là, ça va faire. T'as mieux paru que... comment elle s'appelle? Jessica McCaskill. As-tu l'impression que c'est peut-être un dernier arrêt avant de retourner en championnat du monde?
Je sais pas l'avenir, mais je t'avoue que c'est dans mes plans d'y retourner éventuellement. Que ce soit à 140 ou à 147, je suis prête à faire n'importe quel poids. Je suis capable de faire les deux. Fait que si les offres arrivent, c'est sûr et certain qu'on va les regarder très attentivement. Puis effectivement, de voir que Terry Harper a pas réussi à tenir plus que 4 rondes devant Sandy Ryan, c'est un petit velours pour moi de voir que moi, j'ai réussi à faire les 10 rondes, que j'ai réussi à y donner de la misère aussi. Fait que j'étais bien contente de voir ça.
Toi, tu l'haïs, Sandy Ryan?
Quand même, oui.
Mais nous deux, on s'aime.
Oui, on s'aime, mais tu dis que je suis ton athlète préféré, puis tu mens complètement parce que tu passes ton temps à dire que c'est Martine. Mais Martine, je t'aime, fait que c'est correct.
Ouais, Martine, elle a besoin d'amour, OK? Puis tantôt, je t'ai crié « je t'aime » pendant le gala, c'était quand même drôle. Fait que merci, bonsoir.
Merci.
Segment groupe Yvon Michel. C'est drôle, hein, parce que ce matin, je disais le texte de Francis Paquin. Allez lire ça, c'est quand même assez violent et révélateur. Francis raconte les deux côtés de la médaille dans le dossier de la séparation de Caroline Vert avec le groupe Yvon Michel. Puis il y a des choses que moi, je disais dans le podcast 120 secondes qui a été cité. ou que je disais à mes amis, quand je leur parlais dans la rue, puis là, je disais, tu sais, là, puis même pour Marie-Pierre, qui, tu sais, elle se plaindra jamais, là, puis même pour, mais je le disais pour Caroline Vert, un écurie qui est, que tout ce que tu entends de boxe, c'est Kim Clavel, Kim Clavel, Kim Clavel, Kim Clavel va remplir le Centre Bell. J'y ai pensé que ça devait être fâchant pour les autres. Je vais donner un exemple précis. Quand Yvon Michel refuse de payer les frais de sanction pour une ceinture mineure pour que Caroline Vert puisse s'établir, mais qu'en revanche, il est prêt, il nous annonce qu'il veut organiser un combat entre Bermudez et Nery Plata pour une unification complète, qui ne vendrait pas 500 billets au Québec parce que les gens n'ont rien à cirer des deux boxeurs étrangers ici. Je me dis, OK, il est prêt à payer 4 frais de sanction de ceinture de filles qui ne lui appartiennent pas, mais il ne veut pas payer pour Caroline Vert. Si moi, j'ai cette réflexion-là, croyez-moi que sa gérante a la même réflexion. Puis ce qu'il va falloir surveiller dans les prochains mois, et je vous le dis, ça va être intéressant, c'est que Katia Banel, la gérante de Caroline Vert, gère aussi, je vais vous donner un exemple. Si le Canada, il y avait un repêchage comme au hockey pour repêcher les meilleurs athlètes à chaque année, aujourd'hui, dans une année olympique, le choix de première ronde au total, c'est Tamara Thibault. Et le deuxième ronde au total, c'est Wyatt Sanford. Ils sont avec Katia Banel aussi. C'est elle qui est la gérante des deux plus beaux joyaux qui s'en viennent. Et Sylvain Pelletier me racontait que Vincent Auclair fait un travail incroyable avec Wyatt Sanford. Fait que est-ce que de plaire, tu sais, comme moi, si j'étais exemple Camille Estéphane ou Eddie Hearn, j'appellerais Katia Banel et je lui jouerais de la harpe. Je mettrais de la musique, je dirais Katia, là je chanterais Katia. Puis là, je dirais, oh, j'ai lu ton article avec Francis Paquin, je suis intéressé à faire boxer Caroline Vert. Et là, quand ils arriveraient les deux là, à l'aéroport, tapis rouge, pétale de rose. Pourquoi? Parce que j'ai l'œil sur Wyatt Sanford puis Tamara Thibault. Je commencerais à jouer du charme à Katia Banel par l'entremise de son athlète et sa conjointe, Caroline Vert. Je gâterais Caroline pour montrer à quel point je peux faire une belle job avec Tamara et Wyatt Sanford, qui sont l'avenir de la boxe canadienne. Donc voilà, c'est ce qu'il va falloir surveiller. Allez lire le texte de Francis cette semaine dans ma chronique Groupe Yvon Michel. Il y a un gala, si ma mémoire est bonne, au Casino de Montréal. C'est aussi disponible sur gymbox.tv parce que tous les billets sont vendus selon mes sources. Kim Clavel revient contre Farah El Bouzari. Farah El Bouzari nous vient d'Espagne. Elle a déjà perdu une majority decision contre la championne Fabiana Bitiki. Jamais allée au tapis. Ça va être intéressant. Des fois, tu regardes BoxRec, tu penses que ça va être complètement injuste. Puis par un concours de circonstances, une coupure ou quelque chose, ça devient un combat serré. C'est, je crois, ce qu'on ne veut plus que Kim fasse. Parce que Kim, elle veut aller jouer avec Senesia Estrada ou Yocasta Valley, mais parfois, elle se complique la vie, comme dans son combat contre Naomi Arellano Reyes. Donc, il ne faut pas que tu aies la vie compliquée contre Reyes si tu veux avoir accès à Valley. Fait que là, il faut qu'elle fasse ça simple contre Boussari pour avoir accès aux championnes du monde. Marie-Pierre Houle, elle, mais vous avez entendu mon excellente entrevue, va affronter Marisa Joana Portillo, 69e au monde, une fille qui a subi la défaite à ses 3 de ses 4 derniers combats. Écoute, sa fiche est gonflée sur l'hélium, mais c'est impossible d'y faire mal. Fait que T'sais, je veux dire, c'est super clair ce qui va arriver. Là. Marie-Pierre va gagner tous les rondes. Ce qui est intéressant dans ce dossier-là, est-ce qu'elle va arrêter ou pas Portillo, qui n'a jamais été dérangé dans un ring de boxe. Carlos Mohamed Rodriguez, lui, va affronter Derek Pomerlo. Et c'est le combat le plus intéressant de la soirée. Pourquoi? C'est un gars qui a déjà affronté Brian Mendoza. C'est un gars qui a affronté Karin Shukadazian, méga prospect ukrainien, qui a perdu un combat. Il est allé chercher des rondes. Il a perdu contre Marc Reyes, mais il a perdu contre Isa Lucero. Mais à son dernier combat, il affronte l'Olympien Joshua Fraser. Il se fait voler à Toronto. Ça, c'est des genres de gars qui n'a pas protégé sa fiche, qui a affronté tout le monde, mais qu'aujourd'hui, il a juste 26 ans, puis il a continué à se développer, je vous le dis. Écoutez-moi, le combat le plus serré et le mieux balancé de la soirée, c'est Derek Pomerlo contre Carlos Mohamed Rodriguez. Le combat où tu ne peux pas aller pisser pendant, c'est celui-là. Tu ne vas pas te faire un nacho pendant Pomerlo Rodriguez. Tu te feras un nacho une autre fois dans ta vie. Théo Tillus Owusu va affronter Peter Novak. Owusu a gagné le mois passé, donc on continue à y ramener la République tchèque au complet contre lui. Red Toe va affronter Stepan Kuba et Zachary Loiseau va affronter un adversaire à être nommé plus tard. Carte correcte. Moi, si j'étais vous, je vais vous dire ce que moi je vais faire personnellement. Je ne vais pas aller sur place parce que je suis vieux puis je suis fatigué puis je travaille le lendemain matin. Mais je vais dépenser mon 19,99 sur Gymbox TV. De toute façon, il n'y a plus de billets disponibles. Fait que ça vaut le Gymbox TV. Yvon Michel, cette semaine, en conférence de presse, ne s'en est pas caché. Il est en reconstruction. Il est en compression budgétaire. Yvon a toujours fait ça. Il va chercher quelqu'un pour payer. Est-ce que c'est un commanditaire qui embarque? Est-ce que c'est une alliance avec un promoteur américain? Est-ce que c'est... Ça a déjà été PBC, Pro Bellum, puis ça a déjà été Hans Mouleg qui est arrivé avec 5 millions avec Interbox. Est-ce que c'est un riche homme d'affaires qui veut se lancer en boxe? Je sais pas. Mais... Je sais pas. Est-ce que c'est Yves Lévesque qui va lui donner 5 millions pour partir groupe Yves Lévesque? Avec Yvon comme directeur. Je sais pas. Parce que pour Yves, c'est du screening, 5 millions. Fait que je sais pas par où ça va passer. Je sais pas par qui ça va passer. Mais Yvon est en reconstruction. Il a besoin de A, de l'argent. B, des boxeurs. Donc, on va suivre ça. Mais déjà, d'être capable de nommer le mot de reconstruction... C'est un pas dans la bonne direction. Bon, ce qui est merveilleux quand tu as un podcast, c'est que tu n'as pas trop peur de dépasser les temps. Tu sais, je veux dire, au pire, ça durera 4 heures. Hein. Parce que cette semaine, j'espère que je ne me mélange pas des dates. Non, je pense pas. On a appris que Christian Billy allait affronter Mark Efron. Puis Mark Efron, c'est à peu près le même calibre là, que... Rowan Murdoch, puis c'est à peu près le même boxeur aussi. T'sais. C'est un gars qui vit et périt par la force de frappe. Il frappe fort en joie le vert, mais il se fait frapper fort en joie le vert aussi. Moi, je l'ai connu, excellente question, quand il a affronté Liam Williams. Il allait bien, jusqu'à temps de se faire arrêter. Après ça, il va revenir, il va affronter Denzel Bentley. Bentley, on l'a connu contre Alim Kanouli. Combat nul après 10 rondes. Il était même allé au tapis, puis il est revenu, il a trouvé moyen de faire un combat nul. À la revanche, il va être obligé d'arrêter parce qu'il est trop enflé. Okay? C'est pas comme un encore violent, là, il est juste enflé. Il va battre Lennox Clark par KO. Je vous dis, il frappe fort, ce gars-là. C'était pas une blague, ça. Mais, Alors qu'il affronte Jack Cullen, il va visiter le tapis puis il va se faire arrêter au troisième. Okay? C'est là un peu. C'est que, tu sais, il est allé au tapis au deuxième contre Bentley déjà. Il s'est fait arrêter par Bentley avec son œil. Il est allé au tapis. C'est un coup de tête. C'est un coup à la tête contre Cullen. C'est clair, il est clairement pas résistant. Okay? On peut penser que Mbilly va l'arrêter, et ce, même avant comme le 5 ou le 6e. Là. Mais ça va être spectaculaire le temps que ça va durer. On a aussi appris. Là, si vous restez là, je vous donne un scoop. Okay? Ah, vous aimez ça, hein? Mes coquins. Arslanbek Akhmoudov va affronter Junior Fa. Fa, c'est le dernier homme à avoir battu Akhmoudov chez les amateurs. C'est sûr que mes bons amis de boxe au menu ont noté qu'il y a une victoire en 5 ans contre un gars de 0-6. C'est vrai. Mais en revanche, il n'a pas si mal paru contre Joseph Parker, même si ça accrochait beaucoup. Contre Lucas Brown, ça n'a pas de sens. Il s'est fait arrêter en partant. Brown, qui est rendu à 44 ans et qui va se battre contre Emi Amio la semaine prochaine. Je vais vous donner 3 scoops, je pense. Ah non, je vais me faire pogner, je donne trop de scoops. Ah ben non, ça va passer. Il n'y a personne qui sera à 34e minute. Et contre Fran Sanchez, il échangeait des grosses claques. Quand Sanchez l'a arrêté, il allait très bien, Junior Fa. Moi, je ne serais pas surpris que Junior Fa gagne. Scoop numéro 1, OK. J'espère, je vais me faire prendre, c'est sûr. Là, mais... Il y a des rumeurs que c'est quasiment réglé. La carte à Shawinigan... On ajoute sur cette carte-là Albert Ramirez, numéro 4 WBO, contre Adam Daines, numéro 5 WBO, celui qui s'est rendu au 10e contre Arthur Beterbiev. Unal aura un très bon adversaire aussi. Et on rajoute Wilkins Mathieu, Gaumont, Santana, Guerrero. Vraiment une grosse carte au centre Gervais Auto. Répétez, c'est pas moi qui vous l'ai dit. Adam Daines contre Albert Ramirez. Et répétez pas ça, là, je vais me faire prendre, puis je vais me faire donner des... Je vais finir d'un coffre de char. Le 11 avril prochain, on a Éric Bazignan contre Jack Elfin. On reviendra à ça, mais cette semaine, on devrait apprendre l'adversaire de Mary Spencer, qui, selon mes sources, est une ancienne championne du monde. Ou une fille qui se serait battue en championnat du monde, je ne suis pas certain. Mais Moreno Fendero a un bon adversaire en Nicolas Luque Palacios de l'Argentine. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, c'était ta chronique Eye of the Tiger. On en fera une plus longue une autre fois. Tu sais, je veux dire, c'est ça, là, cette semaine. J'ai quand même donné des scoops un peu. 2 scoops. J'en donne un autre scoop. T'en veux un autre scoop? Le 1er juin prochain, Barrière a parlé qu'il pourrait se battre soit en sous-carte de... Barrière a parlé qu'il pourrait atterrir en sous-carte le 17 mai ou le 1er juin. Je vais vous nommer les deux. J'ai vraiment pas le droit de vous dire ça, mais les deux adversaires qu'on entend, c'est Justin Uni, l'Australien, ou Dempsey McKean, qui est aussi l'Australien, parce que je pense que le titre du Commonwealth sera en jeu. Mais là, je vais me mettre dans le trouble, j'aurais pas dû vous dire ça. Ouais, je vais l'enlever, celui-là, je vais faire du montage. Les résultats. Hier, Kubrat Poulet va battu. Hier. Et mon Dieu, comment je fais pour prononcer ça? Hier chez Vadutsky, au 12e ronde. Antonio Napolitano, qui était 8-0, a perdu contre Ryan Young. Ça, c'est une surprise sur la scène canadienne. Sinon, il est arrivé bien des affaires hier. Accrochez-vous, là, parce que on va y aller, mais hier, j'étais un peu assommé. Francine, t'es-tu gagné un combat? C'était où? Je pense que c'était au Zaire, mais j'ai pas le... J'ai pas l'adversaire au Kenya. J'ai pas l'adversaire. Il a gagné au juge. Il avait un beau drapeau du Québec, mais pas évident. Là, parce que j'ai demandé à sa famille, parce que je voulais pas le déranger, lui. Puis finalement, j'ai jamais trouvé.
Arsem Goulamarian, il affrontait Gilberto Ramirez. Puis la mode dans les dernières semaines, c'était de gager sur Goulamarian parce qu'on disait que Ramirez n'avait pas l'air en shape. Mais là, Ramirez a gagné toutes les rondes et est devenu
champion des cruiserweight. Je sais pas pourquoi je boye de même. On est dimanche matin.
Il est devenu champion des cruiserweight à 200 livres. Donc, Gilberto Zurdo Ramirez qui s'en va jouer chez les 200 livres. En sous-carte, je surveillais, mais pas grand-chose, là, mais j'ai été surpris de voir que Karim Hackett, qui était comme un prospect canadien, là, lui, il s'est fait battre par Rowdy Legend Montgomery. Il m'a dit, c'était un gars de 10-5, puis on voulait lancer le prospect canadien, puis il s'est fait knocker. Fait que c'est la fin de Karim Hackett. Là, j'ai capoté. Kurmel Motton, qui est le prodige de Floyd Mayweather, a gagné contre Anthony Cuba. Julio César Martinez a gagné Penemiza contre Cordova. Mais là, Sergei Boachuk, on avait déjà failli voir contre Mikhail Zuski. Lui, il avait, si ma mémoire est bonne, 23 KO en 23 victoires. Okay. Mais là, il a arrêté. Il n'a pas été capable d'arrêter Brian Mendoza, mais il l'a battu largement au juge. Puis j'avoue que ça, c'est une grosse surprise. Je savais que Boachuk était bon à 154 livres, mais je ne savais pas qu'il était bon à ce point-là. Là, ça le classe 5e au monde. Il peut clairement rêver à l'élite de la division, okay, l'Ukrainien. Spectaculaire pour Sergei Boachuk. Après, il y avait Rislandi Lara qui était pas tant favori que ça contre Michael Zerafa. Il te l'a oblitéré au deuxième round d'une gauche. On a eu Rolly Romero qui défendait son titre contre Isaac Cruz. Il n'a jamais eu de réponse contre les crochets de Pitbull Cruz qui s'est battu comme un chien enragé. Victoire de Isaac Pitbull Cruz. Au 7e round, il n'y a pas de surprise là, par exemple. Rolly Romero était le champion le plus faible de la boxe professionnelle. Et en finale, on a toute une surprise. Sébastien Fundora, à 12 jours de distance, qui revenait d'une défaite, bat Tim Zhu pour devenir champion du monde WBC et WBO. Dans un combat ensanglanté, je suis encore sous le choc. Terence Crawford a levé la main pour affronter le gagnant. Donc, ça sent le Crawford-Fundora. Je suis complètement renversé de ce combat-là. Moi, j'en viens pas. Je dis, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Fundora qui bat... qui bat Tim Zhu, je vire à l'envers. Jamais, je peux se réavancer à vous dire que ça pouvait même arriver. Puis c'est arrivé. Je t'ai sommé bien raide. Les combats à suivre la semaine prochaine. Et ça va être, je suis vraiment en perte de contrôle. J'ai même pas fait les nouvelles la semaine, puis rien. Aujourd'hui, dimanche le 31, si vous n'êtes pas en train de fêter Pâques, pluguez-vous sur Sky. Il y a Fabio Wardley contre Fraser Clark dans un gros combat local. Il y a Florian Marcoux qui est toujours assisté à un tough, ça, Marcoux. Marcoux, il est tough. Il a l'air tough. Il vient d'Albanie. Il a toute une tête. Il lance des crochets. Là, il affronte Chris Congo. Chris Congo, un vétéran. Surnommé Slick. Il était moins actif des dernières années. Il était beaucoup actif en 18-19. Pour vrai, je ne sais pas quoi penser de Chris Congo. On a Alan Babic qui tente son retour, le sauvage. Puis on a Callum Simpson aussi qui affronte un gars moins bon. Mais les deux derniers combats valent la peine. Ça, c'est en plein après-midi. On a Jamal Earing qui revient cette semaine. Va affronter Jackson John Anglin en Australie. C'est un peu loin. Kim Clavel qui se bat jeudi, j'en ai parlé, 19,99 sur Jim Box TV. Prenez mon argent, c'est correct. 19$, je le fais pour voir ma bonne amie, Marie-Pierre Houle. Puis pour voir Pomerleau, qui est vraiment dans un combat. Je vous aurais averti à l'avance, Pomerleau est dans un combat. Sinon, samedi, le 6 avril prochain, je vais surveiller Claribel Mena. Pourquoi? Parce que je pensais que c'était elle qui allait affronter Mary Spencer. Je le crois encore, d'ailleurs. Je crois qu'ils vont la sortir de là, mais elle fait la finale contre Liliana Palmera. Je surveille parce qu'elle est deuxième à WBA. Le titre est vacant. Disons qu'il faut que je surveille mes affaires, tu sais. Pour être prêt. Moi, c'est ça mon métier, être prêt en boxe. Fait que moi, être prêt. Sinon, le 6 avril prochain, Jack Kulke va affronter Bakram Murtasaliev. Croyez-moi que je vais trouver un lien. Je ne veux pas manquer ce combat-là, qui est important pour la suite des choses à 154 livres. Demandez-moi pas pourquoi, mais Sam Soliman, âgé de 50 ans, avec 60 combats professionnels, va faire la finale au Japon contre Yuki Nokana. 50 ans. Faut que t'aimes ça. En boxe, Sam Soliman, il se battait. Je travaillais pas encore au bureau de poste. Ça fait plus de 25 ans. Pas de sens. Je suis assommé. Je suis complètement assommé de voir ça. Toujours le 6. Et Sam Soliman. 50 ans. Puis il fait des finales, là. Richard Popeye Rivera, lui, va affronter Obina Joseph Mathieu. Je pensais que Popeye Rivera était peut-être le prochain adversaire de Osley Iglesias ou quelque chose comme ça. Je le surveille. Il va finir par affronter un de nos Québécois. Richardson Hitchin contre Gustavo Lemos la semaine prochaine. Et on a Cascade Nicholson contre Sarah Mahfoud et Diego Pacheco contre Chant McCallman. Pacheco, c'est inévitable, va finir par affronter un de notre trio. À 168 livres, il ne pourra pas s'en sauver bien longtemps. Okay? Ça va arriver. Et là, on dirait que c'est un podcast, c'est stéroïde. Hein? Il faut passer les sujets. Là. Je m'étais toujours promis que je ne dépassais pas une heure pour que ce soit endurable pour le public. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je ne le sais pas. Je ne sais même pas rendu à combien de temps. Boxe internationale! J'étais content de voir Pitbull Cruz capturer le titre de Rolly Romero. Il s'est fait huer Romero après. Ça me faisait pas. C'était fou. Fondora, lui, a dit qu'il voulait qu'on affronte tout de suite Errol Spence et faire attendre Terence Crawford. C'est ça que les propos de Samson Lekowicz. Ben, je sais pas pourquoi. Bizarre, ça. Sinon, en boxe internationale, Eristendi Lara, à 40 ans, qui arrête Zerafa pour conserver son titre chez les poids moyens. J'ai hâte de voir la suite des choses. Est-ce que Eristendi Lara aura une fin? Peut-être pas. D'un coup, il est peut-être tombé dans la fontaine de jouvence. On ne saura jamais. Scène internationale. Liam Wilson a perdu contre Oscar Valdez, mais veut continuer sa carrière. Campbell Hatton a perdu son premier combat, le fils de Ricky, et a sacré son entraîneur d'or. Ça me fait toujours sourire. On a eu la sous-carte complète de Tyson Fury et Alexander Usyk. Donc, je voudrais bien que je vous dise ça. Les combats qu'on a eus. Il va y avoir Jay Opetai contre Meris Bredis. Joe Cordina contre Cage, que je ne connais même pas. Agit Kabayel va affronter Frank Sanchez. Dans le fond, on peut penser que c'était le spot à Makhmoudov qui a perdu, qui maintenant appartient à Agit Kabayel. Et Sergey Kovalev va affronter Safar. C'est la carte complète le 18 mai prochain. Je sais qu'Alexis Barrière a tenté d'y être, mais ça n'a pas fonctionné. la vie, des fois, tout fonctionne pas comme on veut. Comme moi, j'aimerais ça être en couple avec Martine Vallard-Bisson, elle veut pas. Donc, tout ne fonctionne pas comme on veut dans la vie. Shakur Stevenson va défendre son titre contre Artem Aroutounian le 6 juillet prochain. C'était pas mal la fin de ton podcast préféré. Je vous aime tous d'un amour profond.